la mise en valeur et la médiation des collections agricoles oubliées. Table ronde organisée par les Neufs de Transilly dans le cadre de la journée professionnelle intitulée « Les collections agricoles, un avenir à inventer ». L'animation de cette table ronde est assurée par Evelyne Baron, conservatrice en chef du patrimoine, directrice du musée de Seine-et-Marne et vice-présidente de la Fédération des musées d'agriculture et du patrimoine rural.
Cette première table ronde a pour sujet mise en valeur et médiation des collections agricoles oubliées. Donc justement, je voulais vous interpeller sur ce terme, oublié. Alors, je voudrais savoir, selon vous, pourquoi les collections agricoles sont-elles oubliées ?
Selon moi, on a voulu oublier les collections agricoles car elles sont peu attrayantes.
Élodie Massouline, chef du service conservation au COMPA, département d'Eure-et-Loire.
Difficile à faire parler et reléguant tout de suite le lieu qui les expose au rang de vieux musées poussiéreux nostalgiques. Hein. Et donc on ne les comprend plus, si tant est qu'on ne les ait jamais comprises un jour. Et on peut faire le parallèle avec les collections ethnographiques extra-européennes qui n'ont pas toujours été comprises mais qui aujourd'hui suscitent curiosité et admiration. On pense au succès du musée du Quai Branly ou aux nouvelles muséographies du musée de l'Homme ou du musée des Confluences. Donc... Voilà, il faudrait que les collections agricoles suivent ce chemin et suscitent à nouveau voilà, attrait et curiosité. Et c'est tout l'objet de la journée d'aujourd'hui. Sûrement que le discours sur ces collections est à renouveler et la présentation de ces collections à moderniser. Voilà, donc c'est un beau challenge.
Alors, sur Montreuil, c'est un peu différent parce que le site des murs à pêche est en train de devenir un enjeu politique, ce qui ne l'était pas avant.
Bernard Lelièvre, président de la Société régionale d'horticulture de Montreuil.
Et donc, les collections agricoles, enfin l'horticulture montreuilloise, ça devient un enjeu qui aide à faire des choses.
D'accord, c'est-à-dire que ce qu'on peut comprendre dans ce que vous dites, c'est que beaucoup de musées à collections agricoles ne seraient plus portés politiquement.
Ce fut le cas à Montreuil, puisque les agriculteurs étaient de droite, et quand la mairie est passée en 1935 à gauche, et après-guerre, les collections agricoles, les murs à pêche n'étaient plus un enjeu non plus. Et ça redevient, maintenant, dans le contexte actuel, avec le besoin de nature en ville, avec toutes ces choses, tous ces problèmes de climatologie et tout ça. Donc l'espace montreuilois des murs à pêche redevient un enjeu, et le jardin-école redevient... reprend du sens, les collections aussi, du coup, reprennent du sens. Et alors, en plus, tout dernièrement, en fait, l'inscription de l'art de l'espalier, c'est-à-dire la taille fruitière, au sein du patrimoine immatériel de France, ça fait aussi que les collections peuvent, on peut espérer qu'elles vont reprendre une valeur, puisque ce serait plus ou moins les seules collections qui retraceraient l'histoire de l'art de l'espalier.
Laurence, Julien, un avis là-dessus ?
Nous, on ne peut pas dire au sein de notre fonds, que les collections agricoles soient oubliées.
Hein. Laurence Bazin, déléguée générale de Cinéam.
C'est vraiment une part, même si ça ne représente que 10%, c'est quand même des collections qu'on présente beaucoup dans toutes les communes du Sud-Essonne et Seine-et-Marne. Après, donc ça apporte la spécificité, c'est qu'on est beaucoup sur du récit, du récit de vie, et que ça complète complètement des collections plus muséales. Par contre, nous, on n'a pas de lieu, donc effectivement, ces témoignages, qu'ils soient filmiques ou oraux, viennent compléter justement des lieux qui conservent des objets agricoles.
Sur le point, sur le terme oublié, pour le coup, c'est plutôt correct parfois.
Julien Derny, chargé des collections à la ville de La Courneuve.
Parce que, du coup, les collections de la ville de La Courneuve ont été constituées à partir de 1983. Donc, il y avait l'écomusée des cultures légumières de la ville de La Courneuve qui a existé jusqu'au milieu des années 90. Et une fois que l'écomusée a fermé, donc ces collections ont été stockées dans des entrepôts. Et dès en fait le début des années 2000, la municipalité voulait, parce que l'écomusée c'était un musée municipal, la municipalité voulait remettre en valeur ces objets. Le problème c'est que à La Courneuve on n'a pas de lieu d'exposition, et donc la ville a mis un peu de côté ce projet-là jusque au milieu des années 2010 parce que l'entrepôt dans lequel étaient stockées ces collections allait être démoli. Enfin, maintenant, il est démoli, cet entrepôt. Et donc, il a fallu trouver un lieu pour stocker ces collections, mais qui sont du coup restées sur le côté pendant quelques décennies. Aujourd'hui, on a réouvert des réserves, du coup, avec ces collections artistiques et ces collections maraîchères, qui permettent de montrer ces collections qui ont été, du coup, oubliées, entre guillemets, pendant quelques années, mais qui se confrontent toujours au fait qu'on a un lieu de stockage, mais on n'a pas de lieu d'exposition.
Alors justement, ça me permet de rebondir sur le second point que je souhaitais aborder, c'est-à-dire que comment on fait pour valoriser une collection en réserve ?
Bah, nous, pour valoriser nos collections, on a deux moyens qui restent quand même à une échelle assez réduite, enfin trois en fait. C'est d'une part faire visiter ces réserves, c'est-à-dire permettre aux habitants, aux habitantes et au-delà des personnes de la commune, toutes les personnes qui peuvent s'inscrire sur le site Explore Paris. Si vous connaissez ce site, il est super, vous pouvez venir visiter les collections. Et donc ça nous permet en fait d'avoir des groupes de 10, 15, 20 personnes qui vont venir visiter les collections une fois par mois. Donc là, notre prochaine visite, c'est ce dimanche. Et c'est pour nous un moyen, du coup, de faire connaître ces collections à quelques personnes, même si on ne touche pas vraiment, enfin, on ne rayonne pas grâce à ces visites. Dans cette volonté de valorisation, on est en train de mettre en place un site internet aussi, parce que c'est quand même un moyen aujourd'hui qui permet de faire connaître ces collections. Et le dernier volet, c'est le prêt de ces collections, que ce soit du coup à des musées ou alors plus singulièrement à des pièces de théâtre pour avoir un peu de décor. Nous, sur ces collections, ce qui me vient en tête là directement, c'est en juin, il y a une exposition qui s'appelle Rêver la ville, habiter le rêve, qui est une exposition du musée de l'histoire de l'immigration qui va avoir lieu à la Courneuve. Et qui sera fait par des enfants, enfin qui est faite parce qu'elle est quasiment finie, par des enfants de classe de CM2 de la ville de la Courneuve qui ont visité ces réserves parce que du coup dans ces visites il y a aussi un gros volet pédagogie avec les classes du territoire et qui ont choisi de montrer dans leur exposition avec le musée de l'immigration des objets maraîchers. Donc qui eux leur parlent et font écho, enfin leur parlent dans une mesure où ça renvoie à la ville, mais c'est des objets en fait qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et ça, je pense qu'on en parlera après du coup.
Là-dessus, je voudrais rebondir, vous poser deux questions. Quand vous accueillez des gens in situ dans la réserve, donc des petits groupes, 20 personnes, vous disiez, comment palliez-vous l'absence de récits? Que constitue une scénographie, enfin, voilà, une expo, c'est raconter une histoire. Donc, quand il n'y a pas cette histoire, qu'il y a les objets qui sont juxtaposés les uns à côté des autres, plutôt pour des raisons de stockage de place, de voilà, conservation, comment vous faites ? Qu'est-ce qui se passe ?
C'est la singularité du lieu, c'est-à-dire qu'on ne présente pas comment les réserves et on conduit pas cette visite comme on conduit une visite dans un musée. Ici, on fait vraiment une grande place au fait que ce soit un lieu professionnel. C'est-à-dire qu'on présente en fait cette visite comme la visite d'un lieu de stockage, comme une autre vision en fait du musée qu'ils ont habituellement, donc ces visiteurs, qui n'ont pas l'habitude de voir ce côté réserve, qui est le versant du coup de la scénographie en quelque sorte. Nous, dans nos réserves, tout est posé dans des conditions de conservation. Et donc, c'est ça qu'on présente. On présente le métier de conservation, enfin de conservateur. Et on construit un récit autour du territoire. En fait, on est du coup, ces réserves-là, elles sont dans le centre culturel Jean Oudremont, qui est le centre culturel qui se trouve au cœur du grand ensemble des 4000. Si vous connaissez, normalement, la Courneuve, c'est la première chose qui vient en tête. Et c'est en fait le récit qu'on construit, on le construit déjà à partir de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on regarde ces grandes barres d'immeubles et en fait, on explique tout le récit de la construction des 4000 et le vécu des maraîchers et des maraîchères qui vivaient précisément ici il y a moins d'un siècle. Et donc, une fois qu'on descend dans les réserves, on déroule ce fil en fait, de la vie des Courneviens et des Courneviennes jusqu'aux années 60. Mais effectivement, le problème, c'est qu'on n'a rien à montrer. En fait, tout se passe par quelques images d'illustration qu'on met vaguement en scène et par tous ces objets qui, malgré tout, font quand même... un effet waouh en fait des spectateurs en fait parce que enfin des spectateurs des visiteurs parce qu'il y a vraiment enfin c'est vraiment des réserves quoi donc il y a énormément d'objets c'est un endroit qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on n'est pas familier de ce genre de lieu.
Est-ce que vous, Élodie, vous organisez parfois des visites comme ça, des coulisses ?
Oui, alors ça arrive. Donc pour rebondir sur ce que disait Julien, nous c'est pareil, hein, dans une visite de réserve, l'accent est plutôt mis sur le travail qui est fait, le travail dans les coulisses, donc d'inventaire, de récollement, voilà, de conditionnement, etc. Et c'est vrai que là, dernièrement, on a organisé une visite pour l'association des amis du musée et vraiment, il y a eu un vrai engouement. Donc je pense qu'il faudrait le faire plus systématiquement, enfin voilà, le faire plus régulièrement. Bon, ça n'empêche que c'est quand même à faire en parallèle de la visite du musée. Enfin, c'est vrai que nous, on a la chance d'être ouvert et voilà, cette mise en récit, elle est vraiment intéressante. Pour rebondir sur ce que disait Laurence, nous, quand on a refait le parcours permanent en 2016, on a beaucoup travaillé avec Cyclique, qui est le pendant de Cinéam pour la région Centre. Et c'est vrai que c'était vraiment très, très agréable parce que, voilà, on a vraiment fait un travail assez fin où on identifiait pour chaque machine que l'on présentait dans le parcours ou dans des bornes multimédia, un petit fil. Un extrait qui montrait ces pièces-là, alors pas celle-là précisément, mais un tracteur du même type. Et tout de suite, voilà, ça prend vie et ça complète vraiment le récit. Donc après, ce qu'on peut faire pour valoriser une collection en réserve, donc c'est voilà, aussi de la numérisation et de la mise en ligne pour effectivement diffuser sur Internet. Nous, c'est ce qu'on fait avec le portail des musées de la région Centre et évidemment le portail Pop Joconde. Donc l'avantage du portail régional, c'est qu'en fait c'est assez bien référencé sur Google, donc on a quand même souvent des demandes de particuliers qui nous contactent pour faire des petites recherches par rapport à des études, des étudiants ou des gens qui font des recherches sur leur famille, enfin voilà. Et puis sur Pop Joconde, bien sûr l'idée c'est de toucher plutôt des professionnels et après de générer des prêts. Quand on a été fermé à la suite de la crise sanitaire en 2020, voilà, nous on a vraiment favorisé des prêts auprès du musée des Confluences à Lyon ou Bertrand Hervieux, donc même des prêts de pièces qui étaient exposées, mais du coup comme le musée était fermé, c'était aussi l'occasion de valoriser ces pièces-là. Voilà. Et puis pour terminer sur une petite expérience qu'on a eue au Compas, on a aussi eu à quelques reprises des résidentes artistiques. Et donc notamment, on a fait travailler Hervé Robillard il y a quelques années, qui est un photographe qui est venu dans notre réserve pour valoriser la collection de charrues. Donc c'est une collection qui est assez riche, hein. Il y a 200 charrues qui proviennent notamment de l'ancienne école agronomique de Grignon, aujourd'hui AgroParisTech. Le photographe s'est vraiment intéressé au soc de la charrue, donc la partie travaillante. Et en fait, il a fait des photos vraiment qui font appel à l'imaginaire, où il y a toute une sorte de bestiaire marin ou casque de chevalier. Enfin voilà, ça évoque plein de choses, ces photos. Et du coup, ça permet de voir la charrue sous un autre angle, pas seulement technique, mais voilà, aussi sous l'angle artistique. Donc là, c'était une expérience de résidence plutôt assez réussie parce que ça a permis vraiment de mettre en valeur cette collection qui n'est que très, très partiellement exposée.
Je peux ajouter un mot justement du coup sur la collection Mémoire agricole d'Île-de-France, puisque j'ai été filmée des pièces des collections de la Courneuve. On a aussi filmé ici des pièces de l'ancien écomusée de Savigny-le-Temple pour relier au sein de 9 capsules thématiques vidéo où se croisent les éléments de musée filmés, les archives de Cinéam avec les outils agricoles en usage, quoi. Et des documents photographiques, etc. Il y a 19 structures franciliennes qui ont participé à cette série qui a été réalisée par Neuf de Transili.
Très bien. Alors, traditionnellement, on en vient au deuxième point. Vous parliez d'une exposition faite où figureront beaucoup d'objets en réserve. Donc, ce sont des réservoirs à prêt. donc, finalement, on peut irriguer... sur un territoire, c'est ça, ou enfin plus ou moins large, hein, selon la nature des collections, probablement. Qu'est-ce que vous diriez de ça, par exemple, sur cette expo qui sera in situ à la Courneuve, enfin pas dans la réserve, mais en lien avec, en coopération avec un autre musée.
Oui, donc l'exposition, elle aura lieu du coup dans un collège de la Courneuve qui est actuellement un tiers-lieu parce qu'il n'a pas encore officiellement ouvert. Et donc, dans ce cadre-là, donc il y a un partenariat avec le musée de l'immigration et le prêt, en fait, l'intérêt de ce prêt, je trouve, au-delà d'autres prêts qu'on a pu faire pour des musées, c'est que c'est vraiment cette exposition-là, elle est faite par des enfants du territoire et en fait, on ne les a pas obligés à choisir les objets de la collection maraîchère parce qu'en fait, il y a les collections maraîchères et à côté les collections artistiques et eux venaient voir initialement les collections artistiques. Et donc, je les ai conduits dans ces collections maraîchères parce qu'ils avaient envie d'y aller. Et parce que ça avait de l'intérêt aussi. Et donc, ils ont choisi en fait d'eux-mêmes de présenter les objets de la collection maraîchère. Mais le problème qu'on a, nous, dans ces prêts, c'est qu'en fait, comme pour l'instant, notre site internet a un peu de mal à fonctionner et à se faire connaître, en fait, on a très peu de portée pour que nos collections soient connues. Et donc, nos prêts restent quand même relativement rares. Je crois qu'on a eu 3 ou 4 prêts en 5 ans, ce qui est quand même beaucoup, mais pour des réserves qui n'ont aucune communication. Mais oui, on a une difficulté, nous aussi, du côté de... sur la partie de faire connaître, en fait.
Oui, c'est-à-dire que la collection en ligne, c'est la clé de la diffusion de la connaissance des collections, en fait. Alors, les publics, c'est vrai qu'au début de l'intervention, on a dit que les collections agricoles, pour des raisons évidemment d'évolution démographique, puisque aujourd'hui, la population française a plus de liens avec l'urbanité qu'avec la ruralité, et que les parents agriculteurs, les grands-parents agriculteurs, etc., il y a de moins en moins d'enfants qui ont ce lien, et même des adultes aujourd'hui. Donc, quels sont les publics? Quels sont vos publics?
Nous, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, pour les collections agricoles, il y a un public sûrement qui n'est pas mobilisé. C'est le public scolaire des filières agricoles, pour justement faire visiter les collections, pour qu'ils sachent dans quelle histoire ils s'inscrivent, comment les pratiques ont évolué, comment les matériaux ont évolué.
D'autant que l'histoire de l'agriculture n'est pas enseignée dans les lycées agricoles.
C'est ce que j'allais ajouter, c'est que justement, il y a ce programme, puisque nous à Montreuil, par exemple, il y a 20 ans, quand l'équipe actuelle a repris ce musée et ce jardin-école, on est mitoyen du lycée horticole. On va les voir et on leur dit « Enseignez-vous la taille fruitière ». Et les gens nous disent « C'est pas au programme ». Donc si on enseigne la taille fruitière, on fait perdre le temps aux élèves.
C'est pas sûr. Enfin, j'entends ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on fait perdre du temps dans l'enseignement du programme. Mais...
C'est ce que je veux dire. C'est pour ça que je veux dire qu'il y a un problème de programme scolaire.
Ouais. Après, c'est vraiment une opération séduction envers les professeurs. Et parce que nous, on reçoit des lycées agricoles. C'est vrai que ça dépend vraiment de l'enseignant. Il y a des enseignants qui sont très attachés à l'histoire de l'agriculture. Et dans ce cas-là, ils emmènent les classes. Et d'autres, effectivement, qui sont peu attachés à ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Oui.
Si on veut généraliser l'idée, si on la met dans les programmes, on a plus de succès que si on attend les profs qui sont réellement motivés pour le faire.
Et en même temps, il y a une certaine liberté dans le programme d'éducation socioculturelle, donc c'est peut-être par ce biais-là.
Et là, en fait, en plus, vous parlez de l'enjeu de la perte d'un savoir-faire. Donc, ne pas enseigner une technique de taille.
Et en fait, le comité pour l'art de l'espalier, la promotion pour l'art de l'espalier, le faire inscrire à l'UNESCO, si ça, c'est le projet. Justement, tout le travail en ce moment, c'est de recréer des centres de formation de formateurs. Et du coup, il y a une discussion avec les ministères, parce que comme il y a le label patrimoine immatériel, ça aide à discuter avec le ministère. Et donc, il y a l'idée de reconstituer des filières comme ça. Mais donc, il y a aussi tous ces aspects formation et scolaire qu'il faut voir.
Laurence, quels sont les publics? Est-ce que tu sais quand vous faites des projections?
En tout cas, nous, dans les projections qu'on organise, on a plus de monde finalement dans les zones rurales que dans les zones urbaines. et toutes les projections qu'on organise, que ce soit avec la communauté d'agglo de l'Étampois notamment, avec qui on travaille depuis longtemps, on a beaucoup de monde. Alors évidemment, c'est un ancrage territorial, hein, puisque nos films sont tournés dans le village d'à côté, c'est l'histoire de nos voisins, des grands-parents qui sont pas très loin. Donc là, cet ancrage territorial fonctionne très bien, aussi bien pour la collecte, les gens viennent aux projections et en parlent autour d'eux pour que d'autres personnes déposent leurs films ou leurs récits. Donc ça marche bien. On est de plus en plus aussi sollicité quand même pour intervenir dans les écoles. Là, on a une projection dans une école à Sacla la semaine prochaine pour retracer un peu l'histoire agricole du territoire. Et malgré tout, même si effectivement la population est de plus en plus urbaine plus que rurale, là, le film, il y a eu un film documentaire qui a été fait à partir de nos collections qui s'appelle Paysans cinéastes, qui a été diffusé largement l'année dernière sur Public Sénat et d'autres chaînes et qui a rencontré un franc succès. Enfin, on a eu beaucoup de témoignages, donc ça intéresse quand même le grand public même, puisque là, pour le coup, c'était national et puis c'est pas forcément des gens liés à la ruralité comme on est en Poissy-d'Essonne, voilà, qui s'intéressent quand même à ce passé agricole, sans doute parce qu'on reparle beaucoup plus de circuits courts, etc., et de notre passé agricole, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même moyen de réactiver cet intérêt pour l'histoire agricole de nos territoires.
Nous, on a beaucoup de public scolaire, parce que du coup, ça permet en fait d'avoir une histoire, un récit d'histoire locale pour les enseignants, les enseignantes. C'est toujours intéressant d'avoir cette dimension-là dans leur programme éducatif. Et pour les scolaires, en fait, ils ont un intérêt que je ne pensais pas aussi important sur le fait de voir des photographies d'agriculteurs et d'agricultrices dans leur rue. Mais donc, un siècle avant. Donc aucune maison, des champs, et ça leur paraît totalement irréel. Et ça les intrigue vraiment. Donc il y a quelque chose, en fait, nous, avec les scolaires, on tourne vraiment notre médiation sur le rapport au territoire et à l'urbanisme des enfants, de ce qu'ils connaissent aujourd'hui par rapport à du coup, les pratiques et la façon dont on investissait l'espace de la ville le siècle précédent. Et donc on part de là, on tire le fil et en fait on leur fait du coup un déroulé sur l'histoire maraîchère du territoire. Donc ça, c'est le public scolaire qui représente peut-être 60% des personnes qu'on accueille. Et après, on passe beaucoup du coup par Explore Paris. Et là, on a vraiment un public qui est assez impossible à... C'est pas le terme de dire impossible à essentialiser, mais on peut pas faire une généralité du public qu'on a, parce qu'en fait, le public Explore Paris, c'est énormément de personnes différentes qui viennent de lieux différents, mais qui sont tous... Nous, on les définit comme ça, c'est toutes des personnes qui connaissent en fait Explore Paris, et de là, en fait, c'est déjà des personnes qui ont quand même un rapport au territoire qui est différent de ceux qui n'utilisent pas Explore Paris, parce que du coup, c'est des personnes qui sont habituées à faire des visites.
Donc justement, on a évoqué, hein, pour comprendre ces objets, il y a le film, hein, qui plaît beaucoup, hein. Rien de tel que de voir un objet en fonctionnement. En plus, je pense, dans ce que vous faites, Laurence, dans ce que vous collectez, il y a un côté affectif, une familiarité. Enfin, ce sont des objets simples, souvent d'origine justement familiale. Est-ce que ça compte, ça ?
Oui, je pense beaucoup, hein, parce que à chaque fois qu'on collecte, hein, qu'on collecte un ensemble de films qui sont principalement du film de famille, on fait un entretien audio aussi, hein, donc il y a vraiment les deux, et je trouve que les deux s'enrichissent beaucoup, c'est-à-dire que l'image seule, même si c'est intéressant à mettre en rapport avec les objets, puisqu'on a des films depuis les années 20 jusqu'aux années 90, donc on retrouve beaucoup d'objets qui sont présentés dans le musée, par exemple, de Seine-et-Marne ou d'autres musées, mais le récit audio, qui est vraiment un récit de vie et de souvenirs très anecdotiques, de la personne qui se souvient simplement de son histoire devant les images, ça c'est évidemment très émouvant et très simple et très universel, enfin c'est des souvenirs de famille et du coup ça parle un peu à tout le monde, quoi.
Et Elodie, la remise en fonctionnement alors des machines
Alors depuis 20 ans, le musée organise à peu près tous les deux ans un rassemblement de machines. Et donc, il y a des mises en route et des défilés. Donc, en fait, chaque année, ça dépend, il y a eu plusieurs éditions, donc des rétrospectives de marques, par exemple Renault, mais aussi sur des thématiques comme les tracteurs du plan Marshall, la vapeur en agriculture. Et donc, lors de la dernière édition, l'année dernière, en juin 2024, on a vraiment décidé de mettre l'accent sur les restaurations qui avaient été effectuées par le musée. Et alors c'est vrai que ces démonstrations en fait sont assez, ont un côté vraiment spectaculaire. Donc bien sûr, ça attire un public déjà conquis de collectionneurs de tracteurs qui viennent de toute la France. Mais ça fait aussi venir des badauds, des familles, parce que voilà, il y a effectivement l'effet waouh qui se produit quand on voit une machine statique qui tout d'un coup prend vie entre guillemets. Et là vraiment, c'est un patrimoine qui est augmenté. Tous les sens du visiteur sont en action. Il y a bien sûr la vue avec les mouvements, la fumée, mais il y a aussi l'odeur, il y a aussi le bruit, évidemment, ça pétarade. Donc c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Et en parallèle, bien sûr, d'attirer des nouveaux visiteurs, l'idée, c'est aussi de garder ce savoir-faire de démarrage des tracteurs qui est très spécifique, qui dépend vraiment du type de tracteur. Et pour donner qu'un exemple, on a dans les collections du musée des tracteurs semi-diesel dits boule chaude. On dit boule chaude parce qu'en fait, il y a une boule à l'avant que l'on chauffe à l'aide d'une lampe de chauffe. Et ensuite, on prend le volant qu'on met sur le côté, on tourne d'un mouvement. Et là, au bout d'un certain temps, l'explosion se produit, le tracteur démarre. On remet le volant à sa place et on monte sur le tracteur. Et c'est tout un cérémonial, finalement. Ça prend un certain temps. C'est pas si simple, ça marche pas à tous les coups. Ça nous semble vraiment important de garder ce savoir-faire dans ce côté vraiment patrimoine immatériel. Alors, c'est pas simple de restaurer des tracteurs, mais ça nous semble quand même important de garder ça. Et je pense que c'est vraiment dans l'air du temps, puisque des musées qui avaient arrêté, notamment je pense au musée des arts et métiers, commencent à réamorcer une réflexion sur des remises en fonctionnement de leurs machines. Alors, pour l'instant, plus dans l'idée de faire des films, pas nécessairement devant des visiteurs, mais voilà, cette logique-là, pour les musées techniques, je pense, est intéressante.
Qui est-ce qui fait ça chez vous ?
Bah, nous, c'est donc des bénévoles de l'association des amis du musée, mais ils sont vraiment une petite poignée, donc souvent, c'est des retraités qui sont issus, en fait, du monde agricole. Et donc après, on a un agent du musée, notre régisseur, qui travaille avec eux pour ces remises en marche. Et donc, ces bénévoles viennent un jour par semaine pour restaurer. Donc après, les grosses restaurations, elles mettent 2 ou 3 ans à sortir. Voilà, on restaure finalement peu de pièces par rapport à toutes les pièces que l'on possède. On a une centaine de tracteurs dans les collections et il y en a une petite vingtaine qui a été restaurée intégralement. Mais donc actuellement, on est en train de restaurer un tracteur Renault 300H qui est un gazogène, donc un moteur déjà à l'époque, il date de l'entre-deux-guerres, hybride, parce qu'il y a une partie qui fonctionne au gaz et donc c'était dans un contexte de pénurie d'essence. Donc on en revient à nos problématiques d'aujourd'hui. Donc ça nous semble vraiment intéressant de se dire que déjà à l'époque, il y avait des questionnements et qu'on avait trouvé des solutions. Et donc ça permet de. C'est inspirant pour aujourd'hui dans des contextes de crise.
Et monsieur Le Lièvre, alors le rapport avec le vivant ?
Mais le rapport avec le vivant, c'est qu'en fait, on continue de cultiver des arbres fruitiers, on continue de les tailler, on continue de les greffer. Et donc, il y a toute cette transmission de tous ces savoir-faire. Pour notre association, c'est tous les dimanches. Pour d'autres associations, c'est sur d'autres temporalités. Mais sur Montreuil, il y a plusieurs. En fait, la ville de Montreuil a confié la mise en valeur et la préservation du site des Murs à Pêche. Elle l'a confié à des associations. Donc c'est un certain nombre d'associations qui remettent en route, qui recréent des vergers, qui recréent... Nous, on continue à faire vivre le verger de l'association qui existe depuis 1921. D'autres créent de nouveaux vergers, d'autres créent de nouvelles pratiques.
Et en fait, ça fonctionne essentiellement avec des bénévoles ?
Essentiellement, oui. Oui, nous, on a une seule salariée, c'est la personne qui mène les ateliers pédagogiques parce que là, on a pu signer des conventions et la salariée. Sinon, ce sont des bénévoles, oui.
Alors, le décloisonnement, les collections agricoles, en effet, vous y avez fait référence tout à l'heure, peuvent-elles cohabiter avec l'art contemporain, avec l'archéologie ?
Nous, du coup, nos collections artistiques et archéologiques et maraîchères sont toutes les trois au même endroit. On ne fait jamais la visite de l'un sans la visite des autres. En vérité, on fait une visite globale. Nous, le problème qu'on a, c'est qu'il y a des manques de savoir. Et nous, en particulier dans notre direction, on est très généraliste dans le sens où on a tous une formation en histoire. Bon, on est quatre à avoir une formation en histoire, ce qui est quand même beaucoup. Sauf qu'aucun n'a une formation sur l'histoire agricole ou un champ qui viendrait le rejoindre. Moi, par exemple, j'ai une formation en histoire de l'immigration, donc un peu éloignée de la thématique maraîchère à La Courneuve. Mais justement, en fait, nous, pour construire des bonnes médiations, donc on a besoin du savoir des ethnologues et des historiens qui sont spécialisés sur le domaine. Et donc tout à l'heure, Élodie, t'as parlé d'un portail qui allait être créé et donc qui en fait serait une super porte d'entrée pour présenter nos collections et que nos collections puissent potentiellement être travaillées par des gens plus compétents que moi. Pour que nous ensuite on puisse de ce travail faire une meilleure médiation que ce qu'on fait actuellement, parce que bon, je dis pas qu'on fait une mauvaise médiation, mais qu'elle pourrait être plus pertinente avec un savoir plus précis sur nos collections. Là où dans les collections archéologiques on a quand même un peu d'informations parce que les trouvailles archéologiques sont forcément travaillées dans des rapports de fouilles d'archéologues. Donc là, on a de la matière pour les collections d'art contemporain. On a de la matière aussi parce que c'est des artistes qui sont quand même assez connus, que, surtout sur la scène. La Courneuve, c'est beaucoup d'artistes qui étaient proches du Parti communiste, comme Boris Tazlitsky ou Mireille Miaille, qui sont des artistes qui, en fait, ont quand même pas mal de documentation quand on cherche un peu. Là où sur nos réserves agricoles, sans un œil avisé sur certains objets, on a quand même des difficultés à les identifier.
Oui, on voit bien là dans cette discussion que l'enjeu de l'identification, de l'expertise sur ces collections est essentiel. Élodie, alors est-ce que l'art contemporain est convoqué au compas?
Alors oui, comme dans beaucoup de musées. Après, effectivement, l'important, c'est vraiment que cet art contemporain soit au service de la collection et n'occulte pas cette collection. C'est le risque, parce que parfois, il y a des actions un peu gratuites. Alors moi, je parlerai très rapidement d'un exemple qui, pour moi, a été réussi pour la Nuit des musées 2023. Il y avait eu un travail, une résidence en danse, et il y avait donc eu la fabrication d'une chorégraphie au sein du musée, où la chorégraphe s'était vraiment inspirée des collections agricoles, avec le geste auguste du semeur, le travail de la moisson, les gestes autour de la moisson. Et après, il y avait eu cette chorégraphie qui avait été dansée dans le parcours permanent. Et j'avais trouvé que vraiment, ça avait été un joli dialogue et un joli moment. Oui, c'est sûr que de toute façon, c'est très important de décloisonner. C'est tout l'intérêt des expositions aujourd'hui, c'est de mêler des artefacts très différents et de faire parler les collections, que ce soit des collections ethnographiques, d'art, archéologiques. Après, effectivement, une fois que c'est dit, c'est pas toujours facile à mettre en œuvre. C'est un autre exemple que j'avais trouvé plutôt assez réussi, c'est qu'on a fait une exposition sur le Japon et sur la riziculture au Japon il y a 2 ans. Et donc là, on avait convoqué beaucoup d'œuvres d'art qui provenaient de musées assez réputés, comme le musée Guimet, le musée des Arts Asiatiques de Nice, le musée des Beaux-Arts de Nancy. Enfin, voilà, il y avait vraiment beaucoup de prêts assez prestigieux. Et pour le coup, c'était vraiment dans l'idée de mieux comprendre ce que c'était que ce travail autour de la riziculture au Japon. Et voilà, et donc ça a magnifié un peu ce travail, puisque évidemment, il y avait des estampes japonaises, des okimonos, donc des sculptures en ivoire, ce genre de pièces. Mais c'était au service d'une meilleure compréhension de ce que c'était la riziculture au Japon.
C'est vrai que le comparatisme, quelque chose de très intéressant dans ce domaine, parce qu'on a quand même en agriculture des domaines qui sont quasiment universels, enfin des outils, des... voilà.
Voilà, mais ce qui n'est pas simple, c'est de trouver les bons objets, parce qu'effectivement, dans les recherches que l'on peut faire sur portail pop Joconde, en fait, c'est mal référencé. En fait, on va mettre scène paysanne. Donc après, il faut effectivement avoir l'œil et savoir que telle collection permet d'identifier, qu'il y a tel travail très spécifique agricole pour pouvoir trouver le bon objet qui permet de faire parler... sur la thématique que l'on souhaite.
Alors, pour conclure, puisqu'on a commencé par dire que les collections agricoles étaient oubliées, peut-être, à votre avis, qu'est-ce qu'elles peuvent dire d'aujourd'hui et de demain ?
Il y a un retour aux outils. En fait, on est en train de redécouvrir la binette en ce moment, maintenant qu'on n'a plus le droit de pulvériser n'importe quoi. Donc, il y a un retour aux outils, et il peut y avoir donc tout un travail pour voir comment les outils... sous quelle forme est-ce qu'ils apparaissent maintenant et quelle transformation par les permanences depuis des siècles et puis en même temps les évolutions au niveau des matériaux, au niveau des formes, enfin comment ces outils à la fois sont permanents et varient, évoluent.
Moi j'ai été frappée quand même, le film Paysan cinéaste, c'est quand même un jeune... il a des qualités et des défauts, le film, mais en tout cas, c'était intéressant de voir la jeune génération s'emparait justement de nos archives avec l'idée de réapprendre des gestes. Hein. Donc la jeune génération, le réalisateur, c'était son arrière-grand-père qui était agriculteur en Seine-et-Marne. Après, le savoir s'est complètement perdu. Il dit qu'il n'a aucune transmission de ses grands-parents du geste agricole et que, comme lui, se réintéresse justement à l'idée de vivre à la campagne et de réapprendre les gestes de ses grands-parents, il a réappris à travers les images. Quoi. Enfin, donc, je pense qu'il y a quand même des choses à transmettre. Enfin, une partie de la jeune génération aujourd'hui est vraiment intéressée à retrouver ces gestes. Et que du coup les musées ou les films peuvent les aider.
Oui, puis dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup de numérique, où tout va très vite, c'est vrai que les musées en général et les collections agricoles en particulier permettent de réancrer, de nous réancrer, de reprendre ce lien à la terre, de se reconnecter à la terre. Et puis ça permet de rappeler aussi la patience et la générosité dont est capable l'homme pour sélectionner, améliorer des plantes, pour rendre fertile une terre qui ne l'est pas initialement, pour produire notre alimentation. Et dans ce contexte de changement climatique, c'est vrai que ça peut vraiment donner des perspectives et peut-être ouvrir une troisième voie entre un déni de la réalité et puis une éco-anxiété grandissante, en se disant que il y a des solutions, que l'homme s'est toujours adapté et pourra s'adapter. Et ça peut vraiment être inspirant, s'inspirer du passé, mais s'inspirer aussi d'autres sociétés humaines pour trouver des solutions pour l'avenir.
Bah oui. Alimentation, bien-être animal, climat, qui dit que les collections agricoles sont ringardes. Ben, je vous remercie.